Même audio, une mémoire sonore.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je ne suis pas prête.
Moi non plus. Lâchez les chiens, d'Antonin Ferté. Prologue. Je range le revolver brûlant dans ma poche. Il me reste exactement 2 minutes avant que l'alarme se déclenche. Tout se met en ordre dans ma tête, je marche droit, je connais les gestes. 9 ans que je les accomplis tous les matins. Je déverrouille la porte, ouvre les loquets, accroche les portails des box. Les chiens détalent en ligne droite dans les parcs, d'autres continuent de faire les 100 pas, des fauves face aux grillages éventrés. L'alarme retentit. Ils ont dû trouver les corps. Le PC sécurité déclenche le confinement de l'usine. J'ouvre le chenil 2. Les portes lourdes crissent. Je passe au chenil 3, puis je coupe à travers les parcs pour atteindre le parking. Les chiens bondissent autour de moi en aboyant. Boxer, lévrier, dog. Ils ont l'air de croire que c'est un jeu. Beagle, terrier, teckel. Les petits se ruent dans les pattes des grands, se fraient un chemin dans la mêlée à coups de croc. Je franchis les barrières une à une. Traverse la voie de déchargement des camions. Des corbeaux s'agglutinent par dizaines sur une poubelle de pâté renversée. Je redresse la benne, monte dessus et escalade le dernier grillage qui me sépare du parking. J'atterris à 4 pattes sur le bitume. La douleur me vrille les genoux. Je me précipite vers le pick-up, ouvre le coffre pour vérifier que tout y est. Carabine 308, paquetage de survie et tenue paramilitaire. Les mains crispées sur le volant, je démarre, accélère plein pied pédale. La gomme du train arrière fond sur l'asphalte. Le matos valdingue dans le coffre. Avant de rejoindre la départementale, je fais une embardée et m'engage à 130 km par heure sur la piste agricole qui longe la clôture de l'usine. Je freine dans un nuage de poussière, ouvre la portière, saute à terre. Muni d'une sangle, j'accroche une extrémité à la boule de tirage et l'autre à un poteau de la clôture avant de reprendre le volant. Je passe le premier rapport, écrase l'accélérateur, ma nuque s'écrase contre l'appui-tête. Le grillage vole dans un grincement sourd, le rétroviseur, je vois les chiens face au trou béant dans la clôture. En quelques secondes, ils détalent tous azimuts, certains vers la route, d'autres vers les champs et la montagne. Je suis seul maintenant, le moteur ronfle, le turbocompresseur souffle sur les derniers rapports, 150 km par heure, c'est un bruit blanc, au pied de la montagne, la forêt se rapproche. Chapitre 1, 710 mètres. Recroquevillé dans un coin, le fusil à la main, je sais que j'ai merdé. Des flashs fusent dans ma tête. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, le cœur secoué par des décharges électriques. Je suis KO. Je respire par à-coups, de la poussière plein les narines. Je suis incapable de me relever. Des vertiges. Les 15 dernières minutes sont floues. La déflagration résonne encore dans mes tympans. Je passe une main sur la roche granuleuse contre laquelle je suis couché pour m'ancrer à la réalité, alors qu'il est le PC sécurité.
3 minutes. 3 minutes, c'est la règle. Et la deuxième règle, imposée...
On vient d'apprendre.
C'est qu'ils seront minutés,
eux aussi. Sur 1 minute 30, c'est
sur
ça.
Sur 1 minute 30.
Voilà, donc nous... Libraire, nous sommes là pour vous resituer un petit peu les livres qui sont lus, les 3 premières minutes qui sont lues, pour vous resituer et vous expliquer pourquoi on a choisi ces livres et pourquoi on a envie de vous les faire partager. Lâcher les chiens, c'est donc ce premier roman d'Antonin Ferté. Vous avez entendu une langue assez concise, rythmée. On suit le narrateur qui s'appelle Valère, qui est assez jeune, qui vient de commettre l'irréparable. On ne sait pas ce que c'est au départ, évidemment. Et qui fuit, qui va monter dans les Pyrénées. Pendant des jours et des jours. Le roman est partagé entre la narration de cette fuite et le récit de ce qui s'est passé minute par minute. On revient en arrière et minute par minute, il va nous raconter ce qu'il a fait. Ça se passe dans un chenil. Il travaille, lui, dans le chenil d'une usine de croquettes dans les Pyrénées. Il nettoie les chenilles. Il vit l'humiliation quotidienne de son supérieur, de ses collègues. Et on découvre petit à petit ce personnage à vif, blessé, qui commet l'irréparable. C'est un premier roman qu'on lâche pas, il y a un côté un peu polar. Voilà, je vous le conseille.
Merci. et bah tout va bien.
Wow, yeah.
C'est la classe. C'est la classe. La voix de Gabriel Talent. Chapitre 1, la princesse. Il entendit ses semelles crisser sur le sable, puis elle se laissa glisser dans le lit du ruisseau à sec et avança de son pas bravache, vêtue d'un jean coupé, d'un large débardeur blanc et de Converse, avec ses chaussons d'escalade et un énorme cahier à couverture rigide à la main. La fille la plus arrogantissime qu'on ait jamais vue. « Salut, couille molle !» lança-t-elle. « Hey, salut, Tam !» répond-il en se levant. Ils parcoururent ensemble le lit asséché du ruisseau dans le soir tombant, deux gamins de 17 ans, à la veille du premier jour de leur dernière année de lycée. Au bout d'environ 3 kilomètres, ils franchirent un passage entre deux basses collines jusqu'à une sorte de parking, jonché de pneus abandonnés, de douilles et de préservatifs usagés, de sacs en plastique accrochés aux tiges des cardons. Non loin, les ruines d'une étrange maison violette. Le vendredi et le week-end, Dan et Tama évitaient l'endroit. C'était parfois un sacré cirque. On ne s'y sentait jamais vraiment en sécurité. Un jour, un type avait demandé à Tama de lui tailler juste une petite pipe. Et elle avait répondu « Qu'est-ce que tu entends par petite ?» Les soirs de semaine, ils avaient le parking à eux seuls. Les rochers se dressaient seuls ou en grappe, formant des allées qu'ils empruntèrent, écartant à coups de pied les canettes et les gobelets en plastique rouge, jusqu'à atteindre le dernier et le plus grand d'entre eux. Il mesurait environ 10 mètres, couleur thé au lait, scintillant de quartz et de mica, ses arêtes blanchies par la magnésie. La voix s'appelait la princesse du doigtage, ouverte par Jen Sasaki avant leur naissance, et cotée V4, échelle d'évaluation de la difficulté d'une voix en escalade. Le vent soulevait le sable à leurs pieds. Tama dit « Putain de merde, mec !»« Pareil, à chaque fois, » dit Dan. « J'ai envie de gerber, t'as pas envie de gerber, toi ?» Des arbres de Josué se découpaient sur l'horizon whisky doré. Les nuages flottaient en entremêlement de barbe à papa rose. Le désert parcheminé et voilé de gris s'élevait en collines striées de bleu, de vert pâle et d'étain, où tournoyaient les traces sinueuses des quads, le sol couvert de cailloux pariait des fragments de poterie. L'obscurité n'était pas encore totale, mais quelques satellites clignotaient déjà sur la voûte contusionnée. Elle plongea ses longs doigts crochus dans les poches de son short, déposa une pièce de monnaie sur sa paume, lui en montra une face, puis l'autre. « Pile !» annonça-t-il. Tama lança la pièce, la rattrapa sur son avant-bras et la dévoila. « Pile !» afficha un sourire aux dents écartées et de guingois, ses grandes oreilles dépassant entre ses cheveux emmêlés. « Ah, t'as la trouille, hein ?»« Non, j'ai pas la trouille. » Non, c'est pas dangereux du moment que tu tombes pas. Bah, c'est ce que je me dis à chaque fois. Daniel Redburn se prépara dans la poussière.
Bonsoir. Alors, la voix, Gabriel Talent, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est l'auteur d'un bouquin incroyable, My Absolute Darling, qui était sorti il y a une dizaine d'années. Il a mis quasi 10 ans pour l'écrire, et on comprend pourquoi. C'est beaucoup moins dur, violent, malsain que My Absolute Darling, pour ceux qui l'ont lu, qui était comme une grosse claque qu'on avait du mal à lire, tellement c'était insupportable. Là, la voix, ce qu'on va garder, c'est cette langue dont vous avez pu déjà avoir décelé un peu les traces, une oralité incroyable, des dialogues qui patate en permanence, enfin, c'est hyper dynamique, etc. Et aussi des personnages, comme dans My Absolute Darling, deux personnages, donc Dan et Tama, deux jeunes, deux adolescents, qui ont une amitié très forte. Il n'est pas question d'amour entre eux, et c'est vraiment une amitié très très puissante. Et ils arrivent un peu à la croisée des chemins. Vont-ils suivre, comme leur recommande leur famille, leur entourage, la voie universitaire, intégrer le système, on pourrait dire, ou alors répondre à leurs rêves, c'est-à-dire se lancer dans l'escalade et tout le mode de vie qu'il y a avec, tout le côté alternatif de cette vie-là, camper, être libre, vivre au plein air, etc. Et finalement, c'est quelque part une petite image de ce quoi, chacun on est confronté à un moment donné. Est-ce qu'il faut répondre à nos rêves? Est-ce qu'on fait absolument tout ce qu'on veut dans la vie? Ou alors on va rester dans le système? C'est un livre éblouissant. Il n'y a pas besoin d'être féru d'escalade. Il y a quelques termes techniques, mais franchement, vous comprendrez aisément. Et peut-être moins une claque.
Ben voilà. Wow. C'est ça. Non, il y a fait 7. Franchement, je connais bien sorti. Non, vraiment bien. C'est magnifique.
Alors, on continue avec Les fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy. Juste une petite précision, les titres, on va dire, des chapitres, ce sont les prénoms des personnages. Rowan. J'ai haï ma mère presque toute ma vie et pourtant, c'est son visage que je vois alors que je me noie. Le visage que je vois en me réveillant après la noyade est différent. Il est dur, tanné par le vent, abîmé. C'est ce que je suis en train d'observer quand l'éruption de la douleur me submerge. Et je sais que l'image de cet homme sera à jamais associée à cette douleur. Chaque fois que je verrai ce visage, je me rappellerai la morsure brûlante des rochers sur lesquels je suis traînée, écartelée, abandonnée, la chair à vif. Je ressentirai la pression dans ma poitrine prête à éclater. Cette sensation sera si aiguë que j'aurai l'impression que c'est en train de se reproduire, à nouveau, depuis le début. Son visage, un retour, une noyade. Fenn. La tempête la ramène vers le rivage, posée sur un amas de bois flotté. La file, au milieu des otaries, l'aperçoit se frayer un chemin entre leurs gros corps endormis, marche en direction de la trace laissée par l'eau qui avance. Des vagues puissantes rapprochent la masse au rythme de la marée. Un éclat de blanc laiteux éclairé par la lune. Une épaule, pense-t-elle. Et des algues pour cheveux. Une main reposant délicatement sur le bois. La fille progresse dans les ténèbres vrombissantes. Elle plonge, ressort de l'eau, attrape la chose bombée pour tenter de la dégager. Lorsque ses pieds heurtent le sable, elle se lève et traîne derrière elle le fagot de bois flotté. La houle gifle ses cuisses et ses hanches, mais elle sait comment se déplacer dans l'eau pour éviter de se faire chahuter, se préparant pendant tout ce temps à quelque chose de terrible, de bouleversant. Une dernière vague pousse le fatras sur la plage et la fille écarte les lanières de varech emmêlées, révélant un visage qui n'est ni bouffi, ni bleu, ni grignoté. Un visage qui respire. La fille s'appelle Fenn et elle vit ici désormais, sur cette longue côtière exposée aux éléments, avec les pétrels, les puffins, les manchots, les otaries. Ça fait un moment qu'elle n'est pas montée sur la colline, là où habite sa famille, dans le phare. Elle n'aime pas s'éloigner de la mer. Mais cette nuit, la tempête, la femme. Des éclairs à l'horizon et la pluie qu'elle entend approcher rapidement. Elle réfléchit vite, puis au lieu d'essayer de libérer le corps, remonte le tas de bois flotté sur le sable noir, aussi loin que possible. Elle s'autorise à jeter un deuxième coup d'œil à ce visage, à cette créature charriée jusqu'ici par une mer dont l'immensité est inconcevable. Un cadeau pour eux. Un rebut. Fenn se met alors à courir. C'est un lieu de tempête, mais...
Alors, deuxième roman également pour cette auteure britannique. Le premier, c'était l'histoire d'une jeune biologiste qui voulait réintroduire les loups en Écosse. C'était remarquable, c'était écrit comme un polar. Là, on va beaucoup plus au sud, on va dans les terres australes. On est sur une petite île de rien du tout, qui doit faire quelques kilomètres de circonférence. Vivent sur cette île une famille, un papa et ses trois enfants. Pourquoi sont-ils seuls? Au départ, on ne comprend pas trop pourquoi. En réalité, cette île fait l'objet d'études scientifiques, mais tous les autres scientifiques sont partis. Pareil, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ça serait dévoiler la suite. Donc ils sont tous les quatre, et ça fait un bout de temps qu'ils continuent à faire des expériences, notamment sur tout ce qui est biosphère, les graines qu'on doit garder, enfin ils font un laboratoire, etc. Et un jour, c'est le début de ce roman, une jeune femme vient s'échouer, alors qu'on est à 1000 km de toute terre. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? On ne sait pas. Et là, on va rentrer dans une sorte de huis clos, puisque les 4/5 du livre, il n'y a que ces 5 personnages. Qu'est-ce qu'est venue faire cette jeune femme? Elle ne dit pas vraiment la vérité, on sent bien qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Qu'est-ce que font cette famille? Qu'est-ce que fait cette famille isolée, comme ça, rester dans son coin, faire ses expériences? Pareil, il y a un truc qui n'est pas clair. Et chacun se jauge, chacun s'évalue. Tout ça pour vous dire que c'est un livre qui est à la fois quasiment construit comme un polar, avec une très...
Juste pour dire que
ça ressemble quand même à une sorte de thriller écologique, donc à la fois qui mêle plein d'idées intéressantes sur l'écologie et à la fois construit comme un polar.
Bravo.
La correspondante de Virginia Evans. Avant propos. Le lundi, autour de 10h ou 10h30, Sybille Van Antwerp peut enfin emporter la tasse de thé noir irlandais teintée de lait jusqu'à son bureau. Le lit est fait, la vaisselle mise à égoutter sur un torchon à côté de l'évier, les plantes arrosées, les étagères époustées. Elle ajuste la position de la chaise, puis regarde quelques instants par la fenêtre vers son jardin et le fleuve en contrebas, vers les quelques voiles triangulaires blanches qu'on aperçoit au loin, le ciel qui se reflète dans l'étendue d'eau, les villas carrées d'Annapolis sur la rive opposée. Avec satisfaction, elle repositionne le bloc de papier à lettres et la raisonnable pile, constamment renouvelée, des prochains livres qu'elle lira. Elle arrange les stylos dans le pot à crayons, compte ses timbres, vérifie le paquet de lettres qu'elle a reçues, mais auxquelles elle n'a pas encore répondu. La liste de celles qu'elle a l'intention d'écrire, le tas de pages retournées dans le tiroir, une lettre qu'elle écrit depuis des années et qu'elle n'a encore jamais envoyée. Sybille est mère et grand-mère divorcée, retraitée d'une brillante carrière dans le droit, toute chose bien présente autour d'elle, mais c'est cette correspondance. Même chose le mercredi, le vendredi et le samedi. Le lundi, autour de 10h ou 10h30, Sybille Van Antwerp s'assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. Félix Thaune, 7 rue du Papillon, 84 220 Gordes, France. 2 juin 2012. Félix, mon cher frère, merci pour la carte d'anniversaire, le stylo plume et le livre commencé dès que je l'ai reçu, jeudi, et terminé aujourd'hui. Tu avais raison. C'est surprenant et électrisant, inventif, tout ce que j'aime. 73 ans ou 72, ça ne change pas grand-chose, si tu veux mon avis. Arthrite, constipation, trouble du sommeil. Ah, et j'ai décidé d'arrêter de me teindre les cheveux. Je me fiche un peu de mon anniversaire, tu le sais, mais ça me fait toujours plaisir que tu y penses. Trudy et Millie sont venues, bien sûr, pour partager des petits fours et jouer aux cartes. Les enfants ont tous les deux pensé à moi. Bruce m'a fait livrer une tarte aux fraises directement d'une pâtisserie, même s'il vient le week-end prochain nettoyer la gouttière, et elle était immangeable, et je l'ai jetée. Ça a dû lui coûter une fortune. Fiona m'a appelé de Londres. Elle m'a dit qu'elle ne reviendrait pas avant Noël parce qu'elle court à droite, à gauche pour le travail. Et voilà qu'elle a remporté un appel d'offres à Sydney, nom d'un chien. Et restera un mois en Australie. Elle me jure que ça ne dérange pas Walt qu'elle soit si souvent en déplacement. Mais entre nous, je ne vois pas comment leur mariage pourrait tenir. Il est sans doute trop tard pour qu'elle ait des enfants. Non qu'ils essaient, du moins elle ne m'en a pas parlé. Je me fais rabrouer chaque fois que j'aborde le sujet. Théodore Lubeck, qui vit plus loin dans ma rue, m'a apporté un bouquet de roses de son jardin, comme il le fait chaque année.
La correspondante, c'est Virginia Evans, c'est aussi un premier roman, publié à la table ronde. C'est une forme très originale. Donc c'est le personnage Sybille Van Antwerp, tu le dis mieux, et ancienne juriste retraitée, elle a 70 ans, quelque chose comme ça. Elle a eu une grande carrière dans le droit. Elle était juriste puis greffière. Elle a suivi en fait un juge avec lequel elle travaillait. Elle était considérée comme sa consœur dans son travail quotidien, sauf qu'à l'époque on ne pouvait pas dire ça, donc elle a pris le poste de greffière. Et toute sa vie, Sybille a correspondu avec son ami d'enfance qui est parti plus loin, avec son frère, avec ses enfants. avec des auteurs, parce qu'elle lit beaucoup, à qui elle écrit des lettres, et elle dit en fait quand on écrit, les gens répondent. Donc elle a des réponses d'auteurs qu'on connaît, c'est assez étonnant. Et en fait on va découvrir sa vie qu'à travers ses lettres. Le roman, ce ne sont que des lettres ou des mails qu'elle écrit et qu'elle reçoit. La particularité de Virginia Evans, c'est qu'elle arrive avec uniquement ce mode d'écriture, ce mode épistolaire, en faisant des ellipses, parce que tout n'est pas narratif, on n'a pas la lettre qu'elle envoie puis la réponse, il y a énormément d'ellipses, à rencontrer ce personnage qui est très attachant, qui est une femme de 70 ans qui en a encore largement sous la pédale, et voilà, à laquelle on s'attache beaucoup. Le roman épistolaire, c'est une forme assez peu vue en littérature, mais là, ça fonctionne très bien. J'ai réussi.
Ils sont très forts, ils sont très forts, ils sont bons. C'est un métier, hein, c'est un métier. Hein.
Alors, vous excuserez mon accent aussi italien.
Arrêtez de me regarder pas comme ça.
Alors, de Grégoire Domenach, le dernier roi de Marettimo. Chapitre 1, Cesare, Gioco Piano. Pour être honnête, je ne sais pas comment raconter la vie de Lorenzino Ferrazio. Bon, je l'ai toujours appelé Zino. Comme tout le monde ici, et bien que je ne connaisse que des bribes de sa vie, ce sont peut-être les plus tragiques et les plus belles. Et pour être encore plus honnête, personne, à part moi, ne peut relater cette histoire. Ce que je ne vis pas du tout comme un privilège. Il me l'a confié un jour de mai 1988, alors que nous étions partis vers le château de Punta Troia. Et c'est là-bas, au sommet de la tour la plus haute, au-dessus de l'isthme et de la mer, qu'il a commencé par ces mots. J'ai parfois le sentiment d'avoir traversé le siècle comme une comète. Et il fallait oser dire tout ce qui a suivi. Mais je crois que Zino a cette force de raconter les choses comme elles se passent avant de passer à autre chose. Enfin, je vais trop vite. Il me faudrait commencer par le commencement pour que ce soit à peu près clair. Donc, ce dont je me souviens, c'est qu'il y eut d'abord des coups contre la porte, un soir de mai 1988, des coups insistants que je n'ai pas entendus parce que j'étais dans l'atelier. Je m'esquintais les mains pour achever ma dernière réalisation, une sculpture symbolisant les furies. Et ce sont les aboiements du chien qui ont fini par m'alerter. J'ai éteint la musique et c'est alors que j'ai entendu les coups contre la porte. J'ai ouvert sur une silhouette longiligne, un homme d'une trentaine d'années, avec un visage émacié, des cheveux lisses et de grands yeux de veau. Cet homme parlait un italien marqué d'un fort accent, avec beaucoup de fautes, et d'une voix à peine audible. « Parlez plus fort » l'ai-je coupé. « Vous êtes qui? Vous voulez quoi ?»« Lorenzino Ferrazio, mon père. Vous vous souvenez de lui ?»« Ferrazio, Zino Ferrazio. » »« Lui-même, je suis son fils, Maurice. » Mon père est revenu sur l'île et m'a chargé de vous dire qu'il aimerait vous revoir. Navré de vous déranger, vraiment, je suis passée ce matin et cet après-midi, mais vous n'étiez pas là. Ce n'était pas tellement le nom qui me laissait circonspect, mais plutôt le fait qu'on veuille me revoir après 50 ans d'absence. 50 ans. Je demeurais immobile dans l'encadrement de la porte. L'homme sur le palier attendait une réponse et je me demandais s'il ne se fichait pas de moi. Une moustache effilée suivait le contour de sa lèvre supérieure et... C'est un détail, mais il avait une pomme d'Adam proéminente, comme un œuf coincé dans la gorge. « Monsieur Scaduto, mon père insiste pour vous revoir. Il serait ravi si vous lui confirmiez votre venue. Nous résidons dans la maison de son frère, Umberto. Il m'a dit que vous sauriez où elle se trouve. »« Je sais, oui. Je passerai le voir. Mon père sera enchanté. Il nous a beaucoup parlé de vous. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me communiquer une date pour votre visite, peut-être même un horaire ?»« Demain, en journée. » Rappelez-moi votre nom. Maurice. Enfin, Maurizio, en italien. Je suis français, pardonnez mes fautes, je ne parle pas très bien. À demain, Maurizio. J'arrête de m'appeler, ça serait bien aussi.
Marettimo, c'est une petite île à côté de la Sicile qui existe, qui... la légende aurait accueilli Pénélope quand elle attendait Ulysse. On va avoir un beau livre sur l'amitié à travers le temps. Cesare et Dino ont grandi ensemble sur cette petite île. Ils ont partagé pas mal de passions, la pêche, les échecs surtout, qui va les suivre toute leur vie. Et puis, une amitié très forte, voilà. Sauf qu'à 17 ans, Dino va partir. Cesare va passer toute sa vie sur cette petite île. C'est lui qui était le narrateur à l'instant. Il va vivre chichement, il va continuer à peindre, à sculpter, à pêcher. Et ça, ça va être son quotidien pendant toute sa vie. Dino, il ne va jamais en entendre parler, effectivement, pendant 50 ans. Et c'est ça que va raconter ce livre, l'histoire de cet homme qui va traverser le siècle avec ses faiblesses, son courage parfois. C'est quelqu'un qui va partir en France, qui va s'engager dans la résistance à Lyon, et puis qui va être déporté, qui va connaître les camps de concentration, qui va ensuite, en sortant de ces camps, reprendre d'abord être l'adjoint, puis devenir le directeur d'une grande entreprise. Pour y arriver, il va monter très très haut. Pour y arriver, il va trahir, il va avoir des compromissions, il va vendre sa parole. Il ne va pas toujours être parfait, mais il va essayer de faire du mieux qu'il a pu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Ce n'est pas un homme du tout au-dessus de tout reproche, mais c'est un homme avec ses faiblesses. Et on a vraiment une empathie incroyable pour ces deux personnages qui se retrouvent 50 ans plus tard.
C'est très beau.
Bonsoir.
Comme son nom l'indique.
Alors, comme son nom l'indique, le premier roman de Timothée Zourabichvili, Plomb. Mais ouais, ça s'invente pas. On se demande comment cet enfant est venu au monde. On se demande s'ils se connaissent vraiment. Ils n'ont pas l'air de vraiment se connaître, les deux sur le matelas, assis l'un à côté de l'autre, qui ne se regardent pas du tout, comme s'ils avaient été mis là par hasard, sans qu'on leur demande jamais leur avis, placés l'un à côté de l'autre sans se connaître. Il la regarde, il veut coucher avec elle, il a ça dans la tête. Elle ne veut pas. Il ne faut pas s'abstenir de dire qu'il veut la baiser, vu comment il la regarde. Si c'est ça qu'il veut, si ce qu'il veut c'est se vider quelque part, et le quelque part c'est elle, et qu'elle importe peu, et que c'est unilatéral dans sa tête à lui, s'il compte rien partager de ça avec elle, si la question n'est pas de faire quelque chose en commun, mais que pour lui c'est juste comme deux machines qui s'emboîtent, s'agencent comme elles peuvent, selon l'ordre naturel supérieur, celui qu'elle n'a pas choisi, celui qu'on lui impose et auquel il croit, alors c'est comme si, disons, il a envie de baiser. Il a ça dans la tête et il fait l'inventaire de ce qui se trouve dans la pièce, balaye tout le petit espace qu'il a loué avec un regard sauvage, un regard d'animal. D'animal blessé. Et là, il y a cette fille, au milieu de l'espace. Et il sait que c'est avec les filles qu'on fait ça. Parce que c'est ça qu'on lui a dit. Qu'il faut une fille pour faire ça s'il se sent pas bien, si ça va pas. Et qu'il a envie de baiser. Avant, il se branlait. Même la première fois qu'il a essayé, il a aimé le plaisir que ça lui donnait. Il s'en souvient bien. Il le fait souvent pour s'en rappeler, pour se rassurer, vérifier que ça marche encore. C'est la seule certitude qu'il a trouvée jusque-là. Il aimait l'apaisement qui succède au truc, mais il ne savait pas encore si ça marchait en regardant un arbre, un poisson, autre chose. Il ne savait rien de tout ça, rien du tout. Mais un jour, quand il était perdu avec tout ça dans la tête, que ça ne marchait pas et qu'il ne savait pas quoi faire avec, le hasard lui montre des images de femmes toutes nues. Ou en sous-vêtements, ou même juste des filles avec des super têtes, des filles qu'il n'a jamais vues et ça lui suffit. Ça lui démarre la tête, qu'il en a presque mal, ça le rend nerveux, ça l'excite. Alors il essaye avec ça. Il cherche des images, trouve des images, regarde les images et ça marche. Mieux qu'avec l'arbre ou avec le poisson. C'est plus rapide, ça marche mieux. Il sent bien que c'est ça le truc, que c'est les filles qui provoque le truc dans sa tête et que maintenant que le schéma fonctionne, son besoin, ça lui permet de l'assouvir. Il sent qu'il sait manipuler une chose supplémentaire de lui-même, de ce qui lui a été donné à la naissance mais qu'il ne comprenait pas encore. Maintenant, il est complet. Il est plein de pouvoir. Un pouvoir sans limite, un cercle fermé de soi à soi. Besoin de rien, pas d'argent, c'est pas payant, c'est gratuit. Quand il veut. Donc on ne sait plus s'il y a besoin de...
Oui. Plomb. Alors, il faut s'accrocher. Pour plomb, c'est... Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, donc je pense que je vais faire moins d'une minute trente. C'est très difficile d'en parler. Ce qui est intéressant dans plomb, c'est cette langue qui est assez étonnante, très brute. C'est aussi un premier roman. Très brute, très crue, comme vous avez pu l'entendre. Ces deux personnages, très jeunes, on sait qu'elle a 19 ans, lui il est dans ces eaux-là aussi, couchent ensemble une fois, elle tombe enceinte. Ils n'ont plus du tout de relation, elle le prévient qu'elle est enceinte, il ne répond pas, et elle va, elle, se débrouiller, accoucher dans sa chambre d'étudiante seule, et essayer de s'occuper de... enfin, vivre avec cet enfant pendant un temps. Et ils vont se recontacter, enfin, lui va la recontacter après cet accouchement. Et c'est là où on en est là au début du roman. Toute la construction, vous avez entendu, on parle de il, mais en fait, on est complètement dans sa tête, et... Tout au long du roman, ça passe de « il » à « elle ». On change comme ça de perception. On est en gros dans la tête du garçon, puis dans la tête de la fille, avec une froideur assez étonnante, avec cette langue très rude. J'ai du mal à en parler, c'est pas facile. mais c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, on rentre dans cette langue et c'est cette narration qui nous emporte complètement. Par contre, c'est noir, il faut s'accrocher, il faut être un peu en forme avant de l'attaquer. Mais ça vaut le coup si vous avez envie de prendre une claque en termes littéraires.
Hey, oh, bien, bravo, allez, bravo.
Bien,
bravo.
Oui. Lundi, c'est loin. Doïcine Makena. 2019. Une baleine se retrouve coincée dans la Tamise. Une baleine rare, une baleine de grande taille, un hyperodon boréal pour être précis. 5 mètres de long, 12 tonnes de lard frémissant et d'os. Elle se débat, paniquée, son corps à moitié échoué près des chariots de supermarchés et des seringues de Bermondsey Beach. Dès le vendredi, c'est une star. Sur Twitter, on lui donne un nom. On incruste sa photo sur des images des Simpsons, du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter. Au début, c'est un mème hilarant, puis ça devient une mode agaçante quand les marques commencent à s'en emparer pour vendre leurs produits sur Instagram. Tout à coup, il convient d'avoir un avis. On appelle les talk shows de l'après-midi pour lui souhaiter bonne chance et proposer des solutions afin de lui venir en aide. On crée des cagnottes en ligne. On organise des ventes de gâteaux, on récolte des milliers de livres sterling en quelques heures, bien que certains soulignent que d'autres causes, les banques alimentaires, le cautionnement de contrôle judiciaire, les réfugiés d'outre-Méditerranée, les anciens combattants blessés de l'armée britannique, la prise en charge de personnes transgenres, la Syrie d'une manière générale, seraient plus dignes de notre argent. Des camps s'opposent, il y a des vainqueurs et des vaincus. On attribue la responsabilité de la situation à un mélange entre les émissions de CO2, le plastique à usage unique, l'Union européenne, l'écofascisme, le volume de combustible fossile nécessaire au fonctionnement d'Internet et l'entêtement à vouloir s'habiller dans les magasins de vêtements low cost. La part exacte de chacun de ces facteurs reste à déterminer, mais une chose est sûre, cette baleine n'augure rien de bon. Elle pointe à doigt accusateur. Personne n'est innocent sous son regard impassible. Vous, déclare-t-elle, vous êtes moralement, spirituellement et écologiquement en faillite. Elle vit encore, mais tout juste. C'est un été tendu, on est en juin. Les employés de bureau déshydratés jaillissent des bouches de métro, les nerfs à vif et angoissés. Chaque nouveau jour de beau temps, on se sent obligé de regarder par la fenêtre et de remarquer « c'est très inquiétant, non ?» Comme s'il était de mauvais goût de parler du soleil et du ciel bleu sans évoquer également l'extinction de l'espèce humaine et des baleines. L'air est chaud et humide, aucun drap qui ne soit trempé, rien, nulle part qui ne soit collant de sueur. Les heures de chaque journée se partagent entre chaleur insupportable et pluie diluvienne. C'est ainsi depuis 3 semaines seulement, pourtant on peine à imaginer qu'il n'en a jamais été autrement. Les gens se déplacent lentement, si tant est qu'ils se déplacent. Personne n'a eu une réflexion cohérente de tout le mois. Ed Seymour, coursier, est en route pour livrer un carton de viennoiserie dans un bureau de Carnegie Wharf. Il est en âge et n'a pas été aussi joyeux depuis des semaines. Il longe le fleuve à vélo.
L'Indice est loin, c'est le premier roman d'un jeune auteur irlandais qui s'appelle Oisin McKenna. Le programme est dans le titre puisque l'action va se dérouler sur un week-end à Londres en 2019. On va suivre une galerie de personnages qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre. On a d'un côté une bande de trentenaires qui évoluent dans le milieu queer londonien et de l'autre leurs parents qui vivent en banlieue de cette même ville. Si on devait résumer grossièrement le livre, on pourrait dire que ce sont les affres existentielles de trentenaires qui se posent des questions sur la vie, sur l'amour et sur le sens à donner à leur existence. Et c'est ça, mais pas que. Il y a aussi une construction qui est très intéressante puisque le roman c'est une forme de miniature de notre société où on a un effet papillon. Chaque personnage, les actes et les décisions et les paroles de chaque personnage vont avoir des répercussions et agir en ricochet sur les autres. Et puis on a aussi, ce qui est très intéressant, toute une réflexion sur la filiation, sur la transmission et sur les rapports de classe qui sont vraiment au centre du roman. Ce qui est intéressant dans ce livre-ci, c'est que parfois dans les récits de transfuges, il peut y avoir un côté dans l'écriture assez froid, presque clinique. Alors que là, c'est très incarné, il y a un côté très charnel qui, à mon avis, donne encore plus de force au propos. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un livre très émouvant, drôle à pas mal de moments aussi, et qui illustre bien à quel point l'intime est politique. Voilà, c'est un très gros coup de cœur.
Alors, Anna Hope, nos héritages. Premier jour. Le jour n'est pas encore levé. Franny est allongée dans la pénombre de la chambre, sa fille Rowan à ses côtés dans le lit. Quelque chose l'a réveillée. Peut-être que le vent a tourné, brassant les feuilles nouvelles, ou peut-être que Rowan a remué dans son sommeil. Sa fille, qui dort si bien maintenant, le souffle lent et régulier, les bras étendus en travers du matelas, mais qui a encore traversé le palier hier soir, perturbée par un cauchemar, en larmes et effrayée. Franny regarde l'heure sur son téléphone. Presque 4 heures, elle ne dormira plus, c'est une certitude. Alors, elle se glisse hors des couvertures et attrape le tas de vêtements abandonnés la veille. Un jean et un vieux sweat à capuche. Rowan ne bronche pas quand Franny s'assoit au bord du lit pour s'habiller, ni quand elle traverse la pièce avec précaution, se frayant un chemin entre les cartons ouverts, les valises et les cadres, entassée contre le mur. Une fois sur le palier, elle referme doucement derrière elle, descend l'escalier, emprunte le couloir du fond jusqu'au vestiaire, où elle enfile son bonnet, sa veste de travail, trouve dans le noir ses bottes en caoutchouc, les chausses. Dehors, derrière la masse obscure de la maison, il fait froid et son haleine forme de petits nuages dans l'air immobile. Le ciel est bleu marine, avec une lune jaune à l'ouest. Elle emprunte l'allée qui traverse le potager, puis soulève le loquet du portail et pénètre dans le parc. Vers le sud, au creux de la vallée, un tapis de brume flotte sur la rivière et son lac, s'accroche aux broussailles qui bordent le plan d'eau. Fanny hésite sur la direction à prendre, puis elle se lance à l'assaut de la colline, grimpant à travers les hautes herbes. Les tiges ploient sous la rosée, chargées de bouses, de fleurs, de crachats de coucou, masses épaissies de chardons, d'oseilles et de cinsons. Son jean est maintenant trempé au-dessus des bottes, sa respiration s'est faite plus profonde, ses bras rythment sa marche, plein ouest. Elle fait attention où elle pose les pieds. On est en mai, et il y a souvent des oiseaux qui nichent près des sentiers, des alouettes des champs ou des bois, ou encore des vaches endormies. Deux de ses longhorns sont près de vêler, et il n'est pas rare à cette époque de l'année de tomber sur une mère et son nouveau-né étendus côte à côte sur un coin d'herbe couché. La terre est dure sous ses bottes. Il n'a quasiment pas plu de tout le mois d'avril et le sol est labouré de profondes ornières, là où les porcs sont venus fourrager en début d'année, en quête de végétaux et d'insectes dans ce riche humus argileux. Mais ils traînent un peu plus haut en ce moment. Ils aiment bien s'affaler contre les troncs des vieux chênes qui marquent la lisière du bois de Ned. Les glands y abondent en automne et on en trouve encore maintenant, en cette fin de printemps. Elle les imagine en train de dormir, vautrés les uns sur les autres avec leur familiarité coutumière, lovés dans une fondrière. Elle adresse au ciel une brève prière pour que sa fille continue de dormir sur ses deux oreilles et poursuit son ascension en direction du...
Ah,
Anna Hope, c'est...
C'est pas la vraie couverture.
Non, ça c'est...
C'est une épreuve.
C'est une épreuve. Anna Hope, vous la connaissez peut-être, elle a écrit déjà pas mal de romans. Son plus connu, c'est La Salle de Bal. Moi, je la connaissais pas, je l'ai découvert avec Nos Héritages et j'ai adoré, j'ai plongé dans... dans ce roman, dans ce qui est un peu comme une saga familiale, ça se passe dans le Sussex, en Angleterre. On est sur un domaine sur lequel il y a un énorme manoir dans lequel vit la famille Brooke. Le patriarche Philip Brooke vient de décéder. Et on va suivre 5 jours autour des funérailles de cet homme. Cet homme, c'était un père plutôt absent, un mari infidèle qui a abandonné sa famille pour aller vivre une histoire d'amour aux États-Unis. Et qui est revenu quelques années après pour se réinstaller dans ce manoir avec son ex-femme du coup et une partie de ses enfants. Franny, dont on parle au début du roman, c'est la fille aînée qui est héritière de ce domaine sur lequel elle a travaillé avec son père les 10 dernières années de sa vie à réensauvager tout le domaine, faire en sorte que la faune et la flore du coin, des alentours, aient toute la place. Que l'humain n'est plus la main mise en fait sur cet espace-là. Il y a un côté donc un peu naturaliste, on a entendu parler pas mal de paysages, il y a ce côté saga familiale où on va découvrir un peu les histoires de chacune et de chacun membre de la famille, et il y a un côté aussi beaucoup plus politique qui est très intéressant, qui...
Elle finit ta phrase, allez quand même, allez.
Le côté politique, c'est par rapport à l'héritage vraiment de ce manoir, comment ce manoir est dans cette famille, et voilà, comment il est arrivé dans les mains de cette famille.
C'est super. Alors, on continue avec Le ciel, la mauvaise, d'Elea Marini. Les vents. Arrête de faire du foin, va voir ailleurs et que ça rapporte, dit la mère qui agite la main pour chasser le gamin. Quel foin? Je suis là, je fais rien d'autre que d'être là, il rétorque. Il tourne autour du corps impatient et fait claquer ses pieds au sol. T'es comme les herbes sèches, dans une grange, tu t'embrases, tu t'enflammes, j'en ai le tournis, allez file. Dans son dos, Beau tire la langue et fronce le nez, sa mère qui le chasse. Il voudrait jurer, saisir ses épaules carrées, les secouer comme les pruniers pour en faire tomber des fruits. Mais la porte s'est déjà refermée sur lui. Il sonde le ciel, bouillie de colère, poings collés sur les hanches, un ciel qui a la couleur des mauvais jours. Beau le voit bien. Et alors quoi? Les mauvais jours? Il connaît. Il les traîne au bord des pompes, les garde tièdes sous les paupières. Sur les marches du perron, il attrape son piège, l'attache sur le porte-bagages de son vélo qu'il enfourche. La bicyclette, trop grande pour lui, grince et grince à chaque coup de pédale poussé du bout des orteils. Beau roule dans les rues brûlantes, passe devant les maisons de Guingouin dont il connaît les contours par cœur. Au détour de la scierie, il avise le molosse gris, celui qui mord si on l'approche, saleté de bête. Il l'évite d'un coup de guidon. Ils sont nombreux, les gosses du quartier, à garder de lui des cicatrices rondes, bosselées, qui leur courent sur les bras. Il roule, le t-shirt mouillé de sueur, le ventre plein de racines retorses, rageux, filou, les dents de lait encore fichées dans les gencives. L'air chaud lui glisse dessus. Son regard se niche dans les coins des appartements, le feuillage des arbres, les magasins piteux qui vendent pas grand-chose. Et partout. Partout, des voitures qu'on remplit, des bras chargés de sacs, d'objets, des corps qui se pressent, les fous. Il ricane, va plus vite, l'après-midi touche à sa fin. Il traverse le fleuve large, boueux. Au loin, il y a les beaux quartiers et leurs maisons qui brillent. Au fil de sa route, la ville se réduit, les bâtisses se font plus rares. Peu à peu, les chênes et les saules couverts de mousse remplacent le goudron, le plâtre. Leur teinte d'été lui ramène le ventre pour l'attendrir. Il bifurque, suit un bras du fleuve, de l'eau brune émergeant des cyprès,
chauve, au tronc épaté, la ville est tout à fait derrière à présent et le bois se dessine, droit devant lui. Les pneus de son vélo s'enfoncent dans la terre et le gamin l'abandonne dans les herbes pour continuer à pied, sa nasse sous le bras.
Alors, Le ciel, la mauvaise, c'est un premier roman d'une autrice montpelliéraine, la Marini, qui travaille dans le cinéma. Et c'est pas tout à fait anecdotique parce qu'on retrouve un côté très visuel dans son écriture. Ça commence par une tempête très violente qui va ravager entièrement une ville et qui va immerger sous les eaux. Et on ne sait pas exactement où ça se passe, c'est pas situé précisément. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est dans les Caraïbes, mais si vous le lisez, vous ferez vos propres hypothèses et on débattra après. On va suivre trois personnages. On a Beau, qui est un garçon frondeur, qui tient pas trop en place et qui va être séparé de sa mère juste avant cette tempête. Alma, qui est une femme qui a fui son pays dans des circonstances assez floues, qui a essayé de reconstruire un équilibre comme elle pouvait dans cette ville, équilibre qui va être complètement détruit par la tempête. Et Isaac, un homme bourru, taciturne, qui essaie autant que possible de vivre loin de la société. Et ces trois personnages, par la force des choses, et bien malgré eux, ils vont être obligés de compter les uns sur les autres et de s'entraider pour survivre et pour s'en sortir suite à cet événement. Et forcément, dans ce chaos, il y a des bribes de tendresse et d'attachement qui vont naître. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que ces trois personnages, ils ont tous leur part d'ombre, ils ont des vies qui sont cabossées, ils ne sont pas toujours facilement aimables. Et l'autrice n'essaie pas du tout de les angéliser. C'est pas du tout manichéen comme livre, je pense qu'il n'est pas tellement question de rédemption ou de guérison, mais vraiment ce qui est mis au centre, c'est la nécessité du nous et du collectif face à l'adversité. C'est une très belle langue aussi, on l'a entendu, mais voilà, ça tient du début à la fin.
Merci. Et alors pour finir, on va se réunir.
Eh oui. Réunissons-nous,
ah.
On savait pas.
Voilà.
On savait pas.
La petite bonne de Bérénice Picha, qui sera chez vous
le 27 mars.
Voilà, le 27 mars, donc leur coup de cœur là.
Prix des libraires 2025.
Prix des libraires 2025.
Et nous découvrons avec vous.
À trois voix.
Parti. Les 100 pas, j'aimerais pouvoir les faire réellement. Ici, c'est 5 pas dans la longueur, à peine 3 dans la largeur et vraiment des petits pas. Des traversées, il en faut quelques-unes pour arriver à 100. C'est long, mais jamais assez. Malheureusement, j'ai tout mon temps pour compter mes pas.
Qu'est-ce que c'est lourd ? Elle se dit ça à chaque fois, chaque jour, chaque nuit, quand il faut se lever, que tout le monde dort encore. Le monde entier repose dans un grand silence, mais même chez elle, rassembler le matériel, sans réveiller personne, sans entrechoc, sans rien renverser. Les balais, les brosses, les savons, les serpillères, les chiffons, le vinaigre, les éponges. Tout mettre dans le panier. Oh, Is, l'arracher de terre, un soupir douloureux dans la nuit silencieuse. Descendre les escaliers, ils grincent toujours. Les mêmes marches, elle les connaît par cœur. Essayer de les éviter. Il lui semble qu'on n'entend qu'elle dans leur immeuble endormi. Elle écarquille les yeux, les mains pleines. Qu'est-ce que c'est lourd, mais c'est nécessaire.
Un jour, elle a voulu en laisser. N'emmener qu'une brosse, une seule. Ça irait bien pour tout. Elle l'a bien regretté. Une fois la brosse mouillée, c'était fichu. Elle déteste le travail mal fait, bâclé. Elle déteste les reproches. Son juge le plus impitoyable, c'est elle. Globalement, ses employeurs sont contents, ponctuels, discrètes, efficaces. Rien à redire.
Sauf Madame Pinchard. Celle-là redit à tout. Il ne faut pas trop l'écouter. Au début, ça la rendait malade, les phrases glacées, jetées, les réflexions, les claquements de langue désapprobateurs. Elle s'y est faite. On se fait à tout, disait sa mère, sa pauvre mère. Elle ne compte pas finir comme elle, au bout du bout. Essoré, rincé, décédé. Un jour, forcément, si, mais pas trop vite, pas trop tôt. Elle a autre chose à faire que du ménage en pleine nuit pour des gens qui claquent de la langue en soulevant les tapis, passent le doigt sur les étagères derrière les tableaux, sous les pots de fleurs, juste comme ça, pour vérifier qu'elle est passée partout. Partout. Elle le sait bien. On ne la piégera pas, que c'est lourd.
Elle marche dans les rues vides, son panier à bout de bras. Ses pas font à peine crisser la neige. Au sol, c'est gelé, c'est noir, c'est froid. Toutes les lumières sont éteintes, même les lampadaires. Pourquoi éclairer à 4 heures du matin? Pour qui? Pour des gens comme elle. Personne n'y a pensé. Personne ne pense à elle, à eux, ceux qui se lèvent aux petites heures pour aller travailler. Tout est silencieux, même elle.
Alors, La Petite Bonne, c'est un roman se passe une dizaine d'années après la Première Guerre mondiale. Ça pourrait quasiment être un huis clos, ça se passe dans un appartement. On va suivre d'abord un couple. Le mari a été grièvement blessé pendant la Première Guerre mondiale. C'était un tout jeune homme à ce moment-là et il a perdu une grosse partie de son autonomie. Et sa femme, depuis, vit dans une culpabilité permanente. On va comprendre pourquoi au fil du livre. Et n'existe quasiment plus que par sa fonction d'aidante. Et ils vont embaucher une jeune fille, une jeune bonne, qui arrive dans cette famille, qui va permettre à la femme de prendre quelques heures par jour pour reprendre son souffle et pour reprendre un peu des forces. Et quand elle arrive dans cette famille, cette jeune fille et le mari, ils se regardent un peu en chien de faïence. Et puis, au fur et à mesure, ils vont comprendre qu'il y a des choses qui arrivent à transpercer les frontières qui érigent notre société, de l'âge, du milieu social, et une de ces choses, c'est la musique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans le livre, et ça fait partie du cheminement de lecture, et c'est ça qui fait son charme. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture est très belle, qu'il y a une particularité dans la narration, c'est qu'on alterne entre des vers libres et de la prose. Ça fonctionne très bien, c'est très fluide, c'est pas du tout forcé, c'est très juste. Et cette justesse, on la retrouve à la fois dans l'écriture et dans le propos. C'est un livre qui est assez dur, mais qui est aussi tout en pudeur, et où il y a paradoxalement pas mal de lumière aussi. Voilà, moi ça avait été un grand coup de cœur quand je l'avais lu, une belle surprise. Et voilà, c'est la sera à la ville.
Merci.
Part, si ça vous intéresse.
Merci. Et bien voilà. François Xavier de la librairie de l'autre rive, de traverser la Garonne, de nous avoir fait confiance et refait découvrir encore des nouvelles aventures, des langues, des endroits, des paysages. C'est toujours un réel plaisir. Merci.
Les livres, ils sont venus avec les livres.
Ils sont venus avec les livres.
Ils font vraiment très bien leur boulot. Donc s'il y en a qui vous branchent, ils sont juste à côté. Vous pouvez déjà commencer à vous régaler.
Et discuter avec les libraires qui vont être aussi au bar. Merci à Luis Mendes d'avoir enregistré cette session que vous pourrez retrouver bientôt sur le site Même Audio. Et merci au Théâtre du Fil à Plomb, voilà, de nous proposer, de nous inviter et puis de faire découvrir, et à vous aussi découvrir. Et tout à l'heure, à 20h30, Tes mains.
Par la compagnie Vendaval.
Ah oui.
On a une partie de la compagnie avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à rester. Si vous ne pouvez pas rester, ça joue jusqu'à dimanche, et dimanche à 15h.
C'est
20h30 tous les soirs, et dimanche à 15h30. Voilà, faites passer le mot. C'est un très beau spectacle. Et le temps de boire un petit verre pour échanger.
Pas moi.
Elle est professionnelle.
Mais déjà qu'elle bafouille.
Mais ça va bien se passer.
Merci de votre présence.
Merci beaucoup. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.